Bonjour. J'espère que vous allez aussi bien que possible, que le Seigneur en tout cas soit votre force et votre paix. Vous puissiez aussi pour les vacanciers en particulier profiter de l'été. Pour ce matin, comme annoncé à ceux qui sont dans le mail de diffusion des annonces de l'Église, je vous invite à méditer à partir d'un passage de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, une partie que je pense bien connue, mais où j'espère nous pourrons puiser de nouvelles choses, ou des encouragements en tout cas. Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13, et on lira jusqu'au verset 25. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? Simon Pierre répondit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais !» Mais lui se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Jésus marchait beaucoup avec ses disciples, et en cette occasion, le texte précise qu'il va dans la région de Césarée de Philippe. Quelqu'un sait où ça se trouve ? Moi non plus, je ne savais pas. Une petite carte de la région, et Césarée de Philippe est tout au nord de la région, bien en dehors de la Judée, bien au nord de la Galilée. La Galilée, c'est la zone rose la plus au nord. Et j'ai entouré là où ça se trouve, Césarée de Philippe, un coin un peu désertique, un coin païen, qui n'est pas habité par les Juifs. Pourquoi aller là-bas ? Eh bien, probablement pour être tranquille, pour être un peu à l'écart de la foule qui presse sans cesse Jésus quand il est en Galilée ou en Judée. Le texte parallèle dans l'évangile de Luc, dans Luc chapitre 9, précise que Jésus priait à l'écart avant d'entamer cette discussion avec juste son petit groupe de disciples. Oui, Jésus avait régulièrement besoin de se mettre un peu à l'écart, d'être tranquille, pour se ressourcer et prier, et aussi quand comme ici, il voulait aborder des questions graves, des révélations importantes avec ses proches. N'hésitons donc pas à faire de même quelquefois. Pour Jésus, cette région montagneuse et païenne du nord était un bon endroit pour cela. Et là-bas, au calme, juste entre eux, Jésus demande donc à ses disciples, « Au dire des gens, qui suis-je ? » Jésus connaissait déjà la réponse, évidemment, mais il avait aussi une idée en tête en posant cette question. Ce n'est qu'un préambule à une question plus personnelle pour les disciples eux-mêmes. Au dire des gens, qui suis-je ? À vrai dire, pour nous, la question peut nous sembler un peu plus énigmatique que ça, parce que Jésus, Matthieu plutôt la rapporte plutôt comme étant, selon la traduction que nous avons de Matthieu, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Qui est le Fils de l'homme ? Les disciples comprennent bien que Jésus parle de lui, parce que c'est toujours d'après Matthieu la 10e fois que Jésus utilise cette expression à son égard, la formule « Fils de l'homme ». Ça semble d'ailleurs être sa préférée. Quand Jésus parle de lui-même, 81 fois, il utilise cette expression dans les évangiles, toujours par des paroles qu'il a prononcées. Matthieu, il écrit son évangile à l'intention particulière de ses compatriotes juifs, et il insiste vraiment pour que ses lecteurs fassent le rapprochement entre Jésus, fils de l'homme, et les prophéties de l'Ancien Testament que Jésus est venu accomplir, et qui contiennent cette expression, et en particulier une prophétie du prophète Daniel, qu'il nous faut aussi que lire pour bien comprendre. Et je l'ai mise là, Daniel chapitre 7. C'est une vision que Daniel avait, donc. « Je regardais encore dans mes visions nocturnes, sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit s'approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. » Nous n'avons lu qu'une partie de cette vision, mais dans celle-ci, le vieillard âgé de nombreux jours est une représentation de Dieu, saint, majestueux, régnant sur son trône en juste juge, et quelqu'un d'apparence humaine s'approche de lui, sans crainte. Il peut même venir devant lui, et souveraineté, gloire, royauté lui sont données pour toujours. Pour les Juifs, le Fils de l'homme, de cette vision de Daniel, représente le Messie. Quelqu'un de très spécial qui sera choisi par Dieu pour régner sur un royaume d'Israël restauré et éternel. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Qui suis-je ? À quelle conviction est-on arrivé sur moi ? Qui suis apparu dans une humble condition d'un enfant des hommes ? S'élève-t-on jusqu'à la conception vraie de mon rôle messianique, que laisse transpirer le nom que je m'attribue ? Non. C'est raté, peine perdue. Malgré tout ce que Jésus a pu dire, malgré tout ce que Jésus a pu faire, depuis déjà de nombreux mois, un an ou deux peut-être, personne parmi la foule ne fait le rapprochement. Personne n'a encore tilté, comme dirait une expression populaire, personne n'est encore arrivé à la conclusion ferme que Jésus, c'est le Messie justement. En tout cas, les disciples n'ont pas eu vent de cela parmi la foule. Ouais, tu es Jean-Baptiste, Jean le baptiseur. Jean-Baptiste ressuscité alors, parce que Jean-Baptiste a été arrêté, enchaîné, jeté en prison, et même déjà tué. Décapité par Hérode, si vous vous souvenez de l'histoire, le même Hérode devant lequel Jésus comparaîtra d'ailleurs avant sa crucifixion, un monarque très sympathique, un des fils d'Hérode le Grand qui lui aussi était très sympathique, qui avait fait tuer tous les enfants lors de la naissance de Jésus. Par superstition, Hérode lui-même disait à propos de Jésus, « Cet homme, c'est sûrement Jean-Baptiste, le voilà ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. » Et un certain nombre de gens croyaient la même chose. « Non, tu es Élie !» Beaucoup des chefs religieux disaient que le temps des prophètes était fini, révolu. Et c'est vrai qu'il y a déjà presque 400 ans de silence de la part de Dieu depuis le dernier prophète de l'Ancien Testament, depuis Malachi. Plus de porte-parole de Dieu. Mais Malachi avait néanmoins annoncé un retour prophétique. Dans Malachi, ça dépend selon les versions, c'est dans le chapitre 3 ou 4, selon nos traductions. « Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. » Donc des gens croyaient que Jésus était aussi peut-être cet Élie qui devait venir. Erreur pourtant, parce que Jésus a déjà dit, un peu plus avant dans l'évangile de Matthieu, que l'Élie qui devait venir, à comprendre comme un nouveau prophète, avec un ministère aussi important que Élie a eu, eh bien cet Élie n'est pas réincarné ou je ne sais quoi, mais c'est Jean-Baptiste qui était ce nouveau prophète. Tu es Jérémie ou un autre prophète. C'est vrai que par son ministère, son message de repentance, son message de jugement aussi, sa façon d'enseigner, ses paraboles, ses miracles aussi, Jésus correspond effectivement au modèle du prophète de l'Ancien Testament et c'est ainsi qu'une autre partie des gens le perçoivent, un prophète. Jésus lui-même n'a pas rejeté ce titre de prophète car il est effectivement prophète, porte-parole de Dieu, mais évidemment bien plus qu'un prophète. Quand on veut se renseigner sur un restaurant, sur un spectacle de nos jours, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur Internet ou dans un guide. Qu'en disent les gens? C'est bien ou c'est pas bien? Et quand on veut se renseigner sur quelqu'un, on regarde aussi peut-être sur les réseaux sociaux ou plus traditionnellement, on demande aux uns et aux autres. Est-ce que quelqu'un le connaît? Il est fiable? Il a fait quoi? Il a dit quoi? Il ressemble à quoi? C'est quoi ses qualités? C'est quoi ses défauts? En bref, c'est qui? Mais force est de constater que les avis peuvent parfois être très variables, voire même très divergents, et ce verset le montre bien. L'objectivité des gens pour juger de quelqu'un d'autre est peut-être parfois très subjective. Mieux vaut se faire une opinion soi-même. Et pour vous, qui suis-je? Vous qui depuis un certain temps me suivez, m'écoutez, me côtoyez, à quelle conclusion êtes-vous arrivé me concernant? Et pour vous, qui suis-je? Demande Jésus alors à ses disciples. Nous n'allons pas nous étendre longuement sur cette question, on l'a déjà abordée à maintes reprises ces derniers mois. Qui est votre Dieu? Qui est Jésus pour vous? Question cruciale cependant, question essentielle même, ce n'est pas une question à 100 euros ou même à 10 millions d'euros, c'est la question capitale, question de vie ou de mort. Ça jette un froid de dire cela de façon aussi directe, mais pourtant oui, le savoir qui est Jésus et le savoir de façon personnelle est bel et bien une question de vie ou de mort. La question déterminante pour notre avenir éternel. Rien de moins que cela. Réjouissez-vous au plus haut point si vous avez et vous savez intimement qui est Jésus. Inquiétez-vous, ou en tout cas renseignez-vous, si ce n'est pas encore le cas. Oui, posez-vous cette question. Pour moi, qui est Jésus? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle est belle cette affirmation, cette profession de foi. Et c'est encore Pierre qui, selon son habitude dans le groupe de disciples et son caractère, prend la parole. La prend-il au nom de tous les autres disciples présents? On ne sait pas exactement. C'est fort possible, car dans le texte de Jean, qui relate aussi une confession de Pierre de ce genre, en Jean 6, il est précisé que peu de temps avant, beaucoup de disciples, entre guillemets, de Jésus l'abandonnèrent et cessèrent de le suivre. Les faux disciples étaient partis, trouvant trop difficile de suivre Jésus. Ceux qui étaient restés étaient vraiment ceux qui avaient sincèrement reconnu en Jésus le Saint, envoyé de Dieu, ou en tout cas ceux qui étaient à minima dans une recherche sincère. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il nous est sympathique ce Pierre, n'est-ce pas? Moi je l'aime bien en tout cas. Fougueux, entier pour le Seigneur, vrai, très affirmatif, engagé. On aimerait bien être comme lui, n'est-ce pas? Il n'y a que moi, bon tant pis, c'est pas grave. Quand Jésus nous pose la question, on aimerait bien avoir toujours cette belle réponse qui jaillit sans hésitation. Oui, moi je veux la même compréhension sur Dieu. Je veux aussi la même hardiesse que Pierre. Un peu plus tôt dans l'Évangile, au chapitre 14, d'ailleurs, Pierre est le seul être humain à avoir, selon la Bible, marché sur l'eau. Juste sur une parole de Jésus, il l'a suivi, il a marché sur l'eau. J'avoue que j'aimerais bien avoir aussi cette foi que Pierre avait. Mince, les bateaux de la CGN sont coincés au port. Pas grave, je traverse à pied. La CGN, c'est la compagnie de bateaux qui fait la traversée sur le lac, hein, pour ceux qui ne savent pas. Moi, j'aime bien m'identifier à Pierre, pas vous. En tout cas, dans ses élans d'enthousiasme, qui lui font faire ou dire bien de belles choses, comme dans ce verset 16. Oui, moi, j'aime bien Pierre. Bon, on l'aime peut-être un peu moins quand il dit des âneries. Mais on se reconnaît peut-être là encore, n'est-ce pas ? Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort ! Oui, bien sûr, Pierre, bien sûr. En fait, tu me renieras 3 fois d'ici demain matin. Hein, moi ? Mais non, je t'assure, jusqu'à la mort ! Ah, Pierre, n'y a-t-il pas des fois où nous aussi nous voulions de tout cœur, comme Pierre, tenir ferme pour Dieu, résister au péché ? Mais notre détermination a fait flop. Peut-être trop appuyé sur nos propres capacités personnelles plutôt qu'appuyé sur Jésus. N'y a-t-il pas des fois où nous aussi nous avons commencé à faire des choses extraordinaires, à marcher sur l'eau ? Façon de parler, évidemment, dans notre propre contexte. Mais les circonstances adverses, le vent fort nous a tout à coup effrayés. Nous avons regardé aux circonstances plutôt qu'au Seigneur. Et alors, comme Pierre, nous avons commencé à couler. Mais heureusement, Dieu nous a secourus. Il nous a tendu la main. Il a redit son amour pour nous. Ça ne nous est jamais arrivé ? Bon, ben, moi, oui, en tout cas. Ça m'est arrivé, ça m'arrive. Et ça m'arrivera encore, malheureusement. Pas la peine de s'en vanter, et encore moins de le faire exprès. Mais c'est une réalité humaine. Mais ouf, Dieu est bon à mon égard. Bien heureusement, Dieu est patient, Dieu est fidèle. Et à votre égard aussi. Le savez-vous ? Ah, il y a des hochements de tête, ouf. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avant notre passage, force est de constater que Jésus n'a jamais vraiment déclaré expressément, ou très explicitement en tout cas, même à ses disciples, qui il était vraiment. Bonjour, écoutez tout le monde, voilà, je suis Jésus, je suis le Messie, envoyé par Dieu pour vous sauver, sauver l'humanité. En fait, je suis même Dieu, Dieu le Fils, je me suis incarné. Tenez un petit miracle pour vous le prouver. Et hop. Non, rien de si direct que ça, on peut s'en étonner. Des fois, on peut s'en plaindre aussi, mais non. Il y a bien sûr plein d'allusions, plein de faits et gestes de Jésus, plein de paroles, qui pour nous, qui désormais connaissons toute l'histoire, nous semblent certainement plus qu'évidents. Enfin, je l'espère. Mais si nous mettons à la place des disciples, reconnaissons que ce n'était pas nécessairement facile, si évident que cela. De fait, Jésus avait voulu, avec sa sagesse profonde, qu'ils arrivent eux-mêmes, pas à pas, à le connaître et à le reconnaître. Sans une déclaration vibrante de sa part, mais plutôt pour que eux arrivent à une déclaration vibrante de leur part. En écoutant ses paroles, en voyant ses œuvres, en contemplant sa vie sainte, en se forgeant une conviction personnelle et vivante. La vraie foi ne naît pas autrement. Ainsi était née celle de Pierre, qui a pu dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ce n'est pas la première fois que ce mot « Christ » ou « Messie » est employé. Et je rappelle que ces deux mots sont équivalents. Hein. « Messie » est issu de l'hébreu, « Christ » est sa traduction en grec. Mais tous deux désignent dans le sens générique celui qui est que l'on oignait d'huile sainte. Ce geste était là fait pour les prêtres, les rois, les prophètes aussi, pour signifier un choix de la part de Dieu pour telle ou telle personne. Et les prophètes ont annoncé un ou un par excellence, le roi, fils de David, qui délivrerait le peuple et établirait son royaume, comme nous l'avons rappelé par la citation de Daniel notamment. Bref, il y a déjà eu des questionnements de diverses personnes quant à la possibilité messianique de Jésus. Mais l'expression de Pierre est vraiment la première déclaration formelle et engageante. Première déclaration consciente et délibérée. Jésus est le Messie. Il est même le Fils de Dieu. Oui, Pierre est sur le bon chemin. Il prend la bonne direction, mais il n'est pas encore arrivé. Fils du Dieu vivant ne veut pas encore nécessairement dire Dieu le Fils. C'est un titre qui, dans le judaïsme, à l'époque, désignait le vice-régent du royaume de Dieu, désigné par Dieu lui-même. Mais la pleine compréhension de qui est Jésus n'est pas encore acquise, et nous le verrons dans notre passage. Pierre a sincèrement et justement compris que Jésus était le Messie, mais il doit encore apprendre et comprendre ce que c'est le Messie, selon le plan de Dieu, et non pas selon les attentes des hommes. Oui, tout le monde attendait, tous les Juifs en tout cas attendaient, un Messie conquérant, victorieux, un Messie qui assujettirait tout le monde, et les Romains en particulier, un libérateur politique pour le peuple de Dieu, un roi terrestre pour le peuple élu, pour nous les Juifs, pensait-il fièrement, pour restaurer notre royaume d'Israël. Et c'est vrai que la prophétie de Daniel, qu'on l'a lue, sur le Fils de l'homme, fait assez attendre, c'est compté triomphant et victorieux, n'est-ce pas? En tout cas, elle était comprise ainsi. Et il y en a plusieurs autres dans ce cas. On attendait le royaume de Dieu sur terre. Oui, voilà l'attente des Juifs, quand on parle du Messie. C'est pour cela que Matthieu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais toujours parce qu'il écrit son évangile à l'intention des Juifs, ses compatriotes, c'est pour cela que Matthieu n'utilise quasiment jamais l'expression « royaume de Dieu ». Seulement 4 fois. Mais il utilise plutôt systématiquement l'expression « royaume des cieux » 31 fois. Le royaume des cieux pousse à des considérations plus spirituelles de ce royaume, plus céleste et non pas politique et guerrière, bassement terrestre, comme les Juifs le voulaient. C'est aussi pour cela que Jésus interdit à ses disciples de dire à quiconque qu'il est le Christ. Ça peut nous sembler bizarre, mais Jésus dit non, ne dites à personne que je suis le Christ. Je ne veux pas entretenir les fausses attentes populaires qui pourraient conduire à un soulèvement contre les Romains. Je ne veux pas que l'on me fasse roi, car les gens n'ont pas encore compris qui est le Messie selon le plan de Dieu. Vous n'avez pas encore compris que le but de ma mission dans le plan de salut de Dieu. Non, ne dites à personne que je suis le Christ. Nous avons aujourd'hui le droit, le devoir même, de dire au monde que Jésus est le Christ. Mais aujourd'hui, quelle est l'attente des gens quand on leur parle d'un sauveur? Quelle est l'idée que se font les gens quand on parle d'un royaume de Dieu? Et vous-même, et moi-même, quel genre de royaume espérez-vous? Quel genre de libérateur attendez-vous pour vos vies? Quel genre de vie chrétienne croyez-vous que Jésus apporte une fois que vous lui remettez la seigneurie sur vos vies? Une vie rose et facile? Une vie de victoire et glorieuse uniquement? Jésus évoque cela dans les versets 24-25, à la fin de notre passage. Mais il faudra être patient parce que l'heure tourne et on l'abordera seulement la semaine prochaine, pour ceux qui seront là. Pour le moment, revenons à Pierre. Jésus voit dans la confession de Pierre un progrès significatif opéré par une révélation du Père, comme il leur dit au verset 17. Mais on abordera aussi les versets 17 et 19 la prochaine fois. Elle va être bien la prochaine fois aussi. Hein. Pierre grandit dans sa connaissance de Christ. Ça ne veut pas dire qu'à cet instant, ou avant cet instant, il n'avait aucune idée de qui était Jésus, ni que désormais il possède une connaissance complète et définitive de ce qu'on recouvre le terme Christ. Au contraire, même, il est évident que son incompréhension concernant la mission du Messie reste grande et profonde. À ce moment précis, Pierre est prêt à reconnaître en Jésus le roi d'Israël, loin de la lignée davidique, dans l'attente de tous, selon l'attente de tous, mais Pierre n'a pas encore compris que Jésus est également le serviteur souffrant. Il a beau être sympathique ce Pierre, mais quand même pas très futé, hein, pas très perspicace. Les prophéties d'Ésaïe, notamment, semblent pourtant très claires concernant le Messie, non ? Relisez les chants du serviteur que l'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe, en particulier Ésaïe 53, et j'en reprends juste quelques mots. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, souffrance, puni, frappé, humilié, percé, brisé. Les Juifs reconnaissaient pourtant bel et bien ces passages comme s'adressant, parlant du Messie. Circonstance atténuante pour Pierre, tout le monde juif de son époque semble avoir occulté cet aspect annoncé du Messie pour ne garder que le côté royal et martial, amnésie collective partielle. Curieux, non ? Comme quoi, des fois, sans nécessairement s'en rendre compte, on fait le tri dans les choses que l'on veut retenir. On ne conserve que ce qui veut nous parler, que ce qui nous plaît ou nous inspire. N'a-t-on pas, nous aussi, ce même travers quand nous lisons la Bible ? On sélectionne certains passages, on en laisse d'autres un peu de côté. Surtout quand les vérités qu'ils expriment nous dérangent un peu. C'est vrai, tout ne nous parle pas tout le temps, et c'est normal selon nos circonstances, mais prenons bien garde à ne pas faire le tri, de tri sélectif ou d'amnésie partielle dans ce que nous dit toute la Bible et chaque partie de la Bible. Nous pourrions nous aussi ne pas voir Dieu pleinement à l'œuvre ou ne pas entendre sa voix en certaines occasions. Et c'est bien pour cela que les versets difficiles que je saute aujourd'hui, on les verra la semaine prochaine, pour ne pas les mettre de côté et essayer de voir qu'est-ce que Dieu veut nous y dire. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et ressusciter le troisième jour. Deuxième circonstance atténuante pour Pierre, Jésus n'avait pas encore commencé à leur expliquer cette partie-là. C'est seulement à partir de la confession de Pierre que Jésus commence. Jusqu'alors, il n'y avait eu dans les discours de Jésus que des allusions vagues et obscures à ses souffrances et à sa mort. Mais maintenant que le disciple a cru en lui et l'a confessé comme le Christ, Fils de Dieu, Jésus peut alors commencer à parler ouvertement, et même il le doit, afin de dissiper dans l'esprit de ses disciples les fausses idées messianiques qu'ils entretenaient encore, et pour les préparer à partager aussi ses humiliations et ses douleurs. En fait, c'est logique. Pierre et les autres ne parviendront à une pleine foi et une pleine compréhension du plan de salut de Dieu qu'en assistant au point majeur suivant dans l'histoire de la rédemption. Et ce sera dans quelques mois. Quand l'Esprit Saint aussi aura été dispensé et leur fera pleinement comprendre. Pour nous, tout étant accompli, la chronologie de nos cheminements spirituels sont certainement différents de ceux des disciples, des premiers disciples. Et s'il y a un essentiel à acquérir, c'est sûr, il y a aussi bien évidemment une progression spirituelle, des révélations que le Seigneur nous fait petit à petit. Si nous y aspirons, si nous en avons soif. Oui, la progression spirituelle est normale, et en tout cas, elle est à désirer. Elle est à désirer. Ne nous contentons pas, ne nous contentons jamais de stagner, spirituellement parlant. Avant la gloire de la résurrection, le Fils de l'homme devra passer par la souffrance et la mort. Non, Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. Une telle pensée est intolérable pour Pierre, bien qu'il vienne de confesser Jésus le Christ. Pierre est encore prisonnier de ses conceptions erronées du Messie. Il devra encore apprendre le chemin de la croix, comme pour tout disciple. Le royaume de Dieu sans la croix n'est pas possible. Le royaume des cieux sans la croix n'est pas possible. Non, la souffrance et la mort n'étaient pas pour Jésus un à côté regrettable, pas juste une conséquence de son refus à faire des compromis. Sa souffrance et sa mort, nous l'avons chanté dans plusieurs chants ce matin, elle a été rappelée, c'était le cœur même de sa mission. C'était le cœur même de sa mission. Jésus, Dieu le Fils incarné, est venu pour donner sa vie. Cela encore était si loin des conceptions courantes du rôle du Messie, y compris parmi ses disciples, que Jésus a dû de plus en plus insister, expliquer sur cela, pour notamment empêcher ses disciples de céder à la tentation de chercher un chemin plus facile. C'est pour cela que la parole de Jésus, plutôt que la parole de Pierre, que je crois bien intentionnée, a suscité une réaction vraiment dure de la part de Jésus. Jésus disait non seulement qu'il souffrirait, mais qu'il devait souffrir. Ainsi était la volonté divine, ainsi étaient les chemins du salut, de notre salut. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, disait l'apôtre Paul. C'est cependant bien ce que nous devons aussi annoncer à nos contemporains. Avec douceur, bienveillance, amour, paix, etc., ne l'oublions pas, mais sans compromis non plus. L'accès au royaume de Dieu n'est pas possible sans l'acceptation de la croix. L'accès au royaume de Dieu n'est pas possible sans l'acceptation de la croix. On n'est pas chrétien sans la croix. On n'est pas chrétien sans la compréhension et l'acceptation de la personne et de l'œuvre de Dieu, le Fils Jésus-Christ. Il le fallait, a-t-il dit. Mystérieuse nécessité, fondée sur le décret de la justice et de la miséricorde de Dieu annoncé par les Écritures. Il le fallait, sinon le monde périrait dans son péché. Et ça, c'est ce que Dieu ne voulait pas. Jésus accepte par amour la volonté de son Père. Chercher un chemin plus facile, suggérer de prendre un autre chemin, c'est ce que Satan l'ennemi a toujours essayé de proposer à Jésus. Satan l'a tenté ainsi au désert. Et Jésus lui a aussi intimé l'ordre de se retirer. Et voici, là encore, Jésus se voit confronté à la même tentation. Non, à Dieu ne plaît, cela n'arrivera pas. Pierre cherchait à le dissuader d'obéir à la volonté de Dieu. Bien sûr, c'était inconsciemment que Pierre disait cela. Par pure amitié pour son maître, il ne se rendait pas compte de la portée de ses paroles. Mais à ce moment-là, il faisait le jeu de l'accusateur public, de l'ennemi, de l'adversaire. C'est bien là le sens littéral du mot Satan. Adversaire, accusateur. Les pensées de Pierre n'étaient pas celles de Dieu. C'étaient des pensées humaines, des pensées du monde. Ces derniers mots, d'ailleurs, doivent nous rassurer aussi sur le fait que Pierre n'a pas été momentanément possédé par Satan. Mais quand nous-mêmes, nous avons les pensées ou intentions du monde, alors nous n'avons pas celles de Dieu. Et si nous n'avons pas les pensées de Dieu, alors nous avons celles de l'ennemi, même inconsciemment. Il n'y a pas de terrain neutre. Ça ne fait pas de nous des démoniaques ou je ne sais quoi, juste des pécheurs. C'est grave aussi, mais le pardon de Dieu est là encore, en chacune de ces circonstances. Soyons-en sûrs et alors surtout saisissons-le, ce pardon. Merci notre Dieu pour Jésus, le Messie. Merci pour le Fils incarné. Merci pour la croix. Merci parce que le royaume de Dieu est possible parce que tu as passé par la croix où tu as été victorieux. Le royaume de Dieu est possible parce que Jésus-Christ est passé par la croix où il a été victorieux. Amen. Et si vous êtes là, à la suite la semaine prochaine. Et je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour la Bible, ta parole, les Écritures qui nous enseignent qui tu es, ce que tu as fait. On a parfois du mal à comprendre certaines choses, on a tendance peut-être à en mettre d'autres de côté. Aide-nous à vraiment nous appliquer à rechercher, à comprendre qui tu es, ce que tu as fait, à travers toute ta parole qui veut nous parler. Merci pour cette confession de Pierre, cet exemple de Pierre, effectivement, que nous voulons suivre à bien des égards. Mais en même temps, on le voit, il a eu beaucoup de choses à apprendre encore. C'est notre cas aussi, c'est mon cas aussi. Je veux me mettre à ton école, Seigneur, je veux me mettre à ton écoute. Que ça soit notre attitude de cœur à chacun d'entre nous, de vouloir t'écouter, d'accepter de t'entendre et d'assimiler tout ce que tu veux nous dire. Oui, instruis-nous, fais-nous grandir dans la connaissance de toi. Nous avons tellement besoin de cette proximité, de cette communion, de cette relation avec toi. Merci pour le privilège de la main tendue. Tu as rattrapé Pierre quand il coulait, tu nous rattrapes à chaque fois que nous coulons. Et tu aimerais bien qu'on arrête un peu de couler. Aide-nous, Seigneur, à regarder toujours davantage à toi. Et nous confessons que tu es le Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Fils incarné. Donne-nous, Seigneur, de la stabilité, de la fermeté, de la fidélité dans cette assurance. Et que ça puisse transparaître chaque jour dans notre quotidien, dans notre marche avec toi. Merci parce que tu marches avec nous. Merci parce que nous avons cet accès au royaume de Dieu désormais. Nous sommes sauvés, nous faisons partie de ta famille, nous sommes membres du royaume des cieux. Ce n'est pas un royaume terrestre, c'est bien mieux que cela. Ta présence dans nos vies et le fait de pouvoir être ton fils, ta fille, pouvoir t'appeler papa, quel privilège. Merci encore pour l'œuvre de Jésus à la croix. Que ceux qui ne l'ont pas encore compris, Seigneur, tu continues patiemment à l'expliquer dans le cœur, dans la tête des gens, ici ou ailleurs. Aide-nous aussi à être de dignes ambassadeurs de cette vérité et de cette délivrance que tu veux offrir. À toi toute la gloire, en Jésus-Christ. Amen.